C'est vrai.
Allez, nous sommes en direct. Mais Carole, j'appuie sur le bouton.
Nous sommes en live. Mais oui.
Bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine. C'est juste après Vibra SOS tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Et tous les mardis matins à 10h, bien sûr, pour la rediffusion. Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique. Toutes les semaines, nous feuilletons la revue de presse de l'actualité scientifique parce que la science, c'est passionnant. Ça nous concerne. Plein de sujets, bien évidemment, et avec Carole qui m'accompagne donc depuis la rentrée de début septembre.
Exactement, bonjour à tous. Nous bonjour
avons,
Jean-Noël.
Bonjour Carole, nous avons plein de sujets à aborder sur plein de thématiques également. C'est ça qui est intéressant parce qu'on ne s'ennuie pas. Si on parle un petit peu trop de médecine, on va hop rebondir sur l'espace. Au bout d'un moment, on a envie de revenir sur Terre. Hop, on va parler d'énergie, ainsi de suite. C'est tout l'intérêt de cette émission et c'est tout l'intérêt de la science, bien évidemment. Vous suivez Graphite sur les réseaux sociaux, notamment suivre l'actualité de Graphite sur la page Facebook et sur le site internet graphite.net qui vous donne toute l'actualité de cette émission et bientôt bien sûr l'émission spéciale de la fête de la science. J'en parlerai tout à l'heure, comme tous les ans ça devient une institution et on parlera de ça dans cette émission. Nous sommes donc aujourd'hui le 30 septembre en 1975, c'est le premier vol du prototype de l'hélicoptère d'attaque Apache en 1975. C'est finalement assez récent.
C'est vrai.
Je trouvais un petit peu plus loin.
Je pensais que c'était plus ancien.
Oui, je voyais que c'était plus ancien et je trouve que c'est toujours intéressant avec cette éphéméride aussi d'avoir une idée au niveau de la chronologie de l'histoire en fait des sciences et des techniques et de pouvoir un petit peu plus positionner telle ou telle découverte ou telle notion sur une échelle de temps. Effectivement, 1975, je pensais que c'était plus ancien. La sonde spatiale Rosetta s'écrase sur la comète Chury. C'était en 2016. Alors ça, on a suivi ça quasiment en direct sur l'antenne de Graphite, et c'était donc le 30 septembre 2016 où on avait évoqué cette sonde Rosetta qui s'écrasait sur la comète Chury. C'était quand même fascinant parce que on est sur des distances très lointaines et on arrive à mettre une sonde qui s'écrase sur une comète. Je trouvais ça fascinant. Je pense qu'on n'a même pas réalisé à quel point on était sur une technologie hyper puissante. Naissance, le 30 septembre 1870 de Jean Perrin. Jean Perrin est un grand homme et je trouve un petit peu dommage quand même que son nom ne soit pas plus connu. À mon sens, il est connu que des spécialistes et je trouve ça très dommage. C'est un physicien, c'est un chimiste, c'était aussi un homme politique français. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1926. Ses recherches les plus connues concernent une série d'expériences menées dans les années 1907-1909 pour valider l'interprétation du mouvement brownien proposé par Einstein et déterminer le nombre d'Avogadro. Dans un livre qu'il a rédigé en 1913 qui s'appelle « Les atomes », Jean Perrin a dressé un état des connaissances en sciences physiques qui inclut ses propres découvertes et cet ouvrage de synthèse va lui assurer une renommée internationale. Il reçoit donc le prix Nobel de physique de 1926 pour avoir validé scientifiquement l'hypothèse atomiste. C'était des hypothèses à l'époque au niveau des atomes, c'est-à-dire qu'on était en pleine découverte de la physique nucléaire, qui mettait un terme définitif à la longue bataille concernant l'existence réelle des molécules. Et en fait, Jean Perrin, il a consacré énormément d'énergie au développement, à l'organisation, à la valorisation de, aussi bien culturelle qu'industrielle, de tout ce qui va être recherche scientifique. Il a été conseiller puis membre du gouvernement français. Et Jean Perrin, il faut avoir son nom en tête parce qu'il a été l'un des artisans majeurs de la création de l'observatoire de Haute-Provence, essentiellement du Palais de la Découverte 1937 et aussi du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique en 1939. C'est un très grand homme, Jean Perrin, né le 30 septembre 1970. Il est mort en 1942. Décès. Le 30 septembre 1913, il faisait une traversée de la mer du Nord. Il est mort à ce moment-là de Rudolf Diesel. C'est un ingénieur allemand. Rudolf Diesel. Oui. Eh bien, on parle bien du diesel, c'est-à-dire il est bien l'inventeur du moteur à combustion interne qui porte donc son nom, le moteur diesel, conçu pour fonctionner avec de l'huile végétale et non avec du gazole. Diesel nomma initialement ce moteur le moteur à huile.
Ah oui.
C'était comme ça au départ. Et maintenant, ça a un petit peu évolué. Mais voilà, diesel est bien le nom d'un ingénieur, en fait. Le moteur diesel, c'est bien le nom du monsieur diesel. Je dis ça parce que J'aurais pas dit spontanément que c'était le nom de quelqu'un.
Tout à fait. Voilà,
c'est tout l'intérêt de l'éphéméride. À toi, Carole.
Exactement. Et du coup, pour enchaîner, eh bien, on va parler de l'humanité. Dans son ensemble, on va prendre du recul
un
de la hauteur, évidemment. Oui, alors, on n'a pas fini, ça va être compliqué les 1 heure d'émission. Finalement, ça va être un petit peu juste. Et on va parler de génétique et de l'histoire de l'humanité. On a, j'allais dire, souvent quand même des articles qui sont intéressants sur ces sujets-là. Je sais que quand je t'accompagne, on a souvent l'occasion comme ça d'en discuter ensemble. Cette fois-ci, c'est de regarder en fait justement les gènes à l'échelle de l'histoire de l'humanité pour se rendre compte qu'il s'est passé des choses justement il y a des milliers d'années qui ont mis potentiellement en péril en fait nos ancêtres. Alors on va explorer tout ça. Et c'est un article du coup que j'ai pu lire dans Futura Science qui met en avant donc ce qu'une équipe de chercheurs a découvert vis-à-vis de nos lointains ancêtres et vis-à-vis justement du risque de s'éteindre. Hein. Donc on aurait peut-être eu chaud puisqu'il semble qu'à quelques 1300 individus près, on ne sait rien du tout, la lignée humaine aurait bien pu s'éteindre. C'est du moins ce que rapporte une nouvelle étude publiée dans la très fameuse revue Science. Tout commence il y a environ 9... Alors, attention, on va essayer de bien dire les dates, hein, c'est important. Donc, 930 000 ans, alors que la Terre connaît une évolution climatique majeure. Nous sommes alors dans une période communément appelée transition du Pléistocène moyen, qui se caractérise par un changement fondamental dans la durée des cycles glaciaires. Alors que la périodicité des glaciations était auparavant de 41 000 ans, celle-ci s'allonge considérablement pour atteindre 100 000 ans. Les contrastes entre période glaciaire et interglaciaire sont alors bien plus marqués. Cette évolution du climat qui ne s'est pas faite du jour au lendemain, il faut le préciser, a potentiellement impacté la vie de nos lointains ancêtres. Donc c'est possible, mais dans tous les cas, cette période elle semble avoir été particulièrement sombre pour la lignée humaine, au point que nous serions donc même passés à deux doigts de l'extinction. Ce drame de l'aube de l'humanité a été mis en évidence par une équipe donc de chercheurs, je le disais, donc ils étaient chinois. Et ils ont réalisé une analyse génomique sur 3154 individus de par le monde. Donc là, des gens qui vivent bien à l'heure actuelle. Leurs résultats suggèrent que la population humaine a ainsi brutalement et dramatiquement chuté il y a environ 900 milliers d'années. Donc de 100 milliers d'individus, la population aurait en effet diminué pour atteindre une valeur critique d'environ 1280 individus en âge de se reproduire, soit une perte démographique de 98,7%. Cette situation n'aurait de plus pas été transitoire et aurait pu perdurer pendant 117 000 ans.
On peut faire juste une pause à ce moment-là pour qu'on comprenne bien ce que tu viens de dire.
Oui.
À un moment, l'humanité s'est réduite à 1400 personnes.
En gros, c'est ça. Alors d'après, visiblement, cette étude, on va expliquer un petit peu comment est-ce qu'ils ont pu le déduire. Mais oui, d'accord. C'est-à-dire que du coup, oui.
Ok, non mais c'est un chiffre.
Ce qui veut dire
on
que...
On passe de 100 000, tu dis à peu près, je crois.
Oui, alors en effet, on voit qu'on n'est pas du tout non plus sur les mêmes échelles qu'à l'heure actuelle.
D'accord.
Hein. Par contre, en effet, d'une base à l'époque qui est estimée à 100 000 individus, on arrive à 1300.
D'accord, ok.
Et une époque qui aurait duré quand même plus de 100 000 ans.
D'accord.
Avec si peu d'individus. Visiblement, la raison invoquée, c'est le changement
critique.
De climat. Oui, oui,
d'accord.
Oui, bah oui.
Ok,
oui.
Et je te laisse reprendre, mais je voulais juste à un moment qu'on
exactement.
On s'arrête bien sur cet élément-là. Ok.
L'espèce humaine aurait pu disparaître.
Bien
c'est
sûr.
Vraiment ce qui, du coup, est avancé.
Ok.
Donc.
Désolé, parce que du coup, vous
comme,
c'est pas ça.
Oui, mais. Comme, c'est un bon exercice. Comme la situation, justement, elle n'a pas été transitoire, donc 117 000 ans. Le temps de les, ça, c'est, enfin, c'est le temps, c'est un temps quand même conséquent, et c'est ce qui a permis en fait de laisser une marque indélébile dans notre génome. Et c'est d'accord. Comme ça en fait qu'on s'en est rendu compte, parce que
okay.
Lorsqu'une espèce elle subit une importante réduction démographique, on parle de goulot d'étranglement, la diversité génétique diminue forcément de manière brutale. Donc un changement qui s'inscrit, qui est un changement qui est aussi important, il va s'inscrire en fait, pardon, dans les gènes des descendants. Il faut savoir que ce n'est toutefois pas l'unique goulot d'étranglement que l'humanité ait connu au cours de son histoire, même si celui-ci a été plutôt sévère. Hein, on sait qu'il y a eu des famines, des guerres, des crises climatiques, donc les aléas sont nombreux, et à chaque fois ils ont fait vaciller la population humaine au cours du temps. L'étude de notre génome a ainsi révélé qu'une importante réduction démographique s'était produite il y a 7000 ans, donc là c'est quand même bien plus récent, dans l'hémisphère nord. Mais remonter donc à il y a 900 000 ans dans le temps, restait un véritable exploit scientifique, le signal de ces goulots d'étranglement s'atténuant bien sûr avec le temps. Les chercheurs ont ainsi développé une nouvelle méthode numérique dédiée au traitement de ce type de données et permettant d'observer l'évolution et les divergences des lignages génétiques au cours du temps. La perte de diversité génétique entre 930 000 et 813 000 ans apparaît ainsi être de plus de 65%. Donc en fait, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a entre guillemets moins de monde, hein, c'est qu'on voit la déperdition de la diversité génétique. Selon nos propres critères actuels, nous aurions donc été classés comme une espèce en danger critique d'extinction. Pourtant, cet événement aurait joué un rôle majeur dans le développement des humains, notamment en accélérant l'évolution du cerveau. Ce goulot d'étranglement aurait également contribué à modeler notre génome en entraînant la fusion de deux chromosomes pour former le chromosome 2, spécifique aux hominines. En effet, lorsque toutes les espèces d'hominidés vivant aujourd'hui, donc les grands singes, hein, possèdent 24 paires de chromosomes, nous les humains, nous n'en possédons que 23. C'est donc peut-être en se trouvant au seuil de l'extinction que nos lointains ancêtres auraient acquis cette spécificité qui fait de nous des hommes.
C'est passionnant en fait ça.
Alors moi je reste un peu sur ma fin au niveau de comment est-ce qu'ils l'ont vraiment étudié, c'est-à-dire quel est le protocole, comment ça s'est passé. Mais en tout cas ce qui est impressionnant c'est en effet de faire, t'as bien fait de m'arrêter tout à l'heure, un peu comme ça une datation pour se rendre compte en fait déjà des échelles qui sont explorées qui sont juste incroyables, hein, sur les temps géologiques comme ça c'est juste fou. Il y a 930 000 ans, enfin c'est déjà difficile de se rendre compte ce que ça veut dire. Et surtout de voir qu'en effet il y a des... comment dire, l'évolution finalement de la lignée humaine à des moments a peut-être frôlé sa disparition, ou en tout cas forcément que c'est des évolutions avec des moments très dangereux, des moments qui font que l'homme aurait pu disparaître.
Je crois que c'est la première fois... Pardon, excusez-moi. Je crois que c'est la première fois que j'entends parler de ça en fait.
Et ben moi aussi, c'est pour ça que quand j'ai vu l'article, ça a retenu mon attention, tout à fait. Je ne savais même pas qu'il y avait eu cette phase extrêmement critique.
Ah ben oui, enfin, les chiffres sont assez évocateurs, effectivement, qui peuvent, comment dire, bon, on peut dire aujourd'hui que l'espèce humaine est vulnérable, en fait, il ne faut pas croire.
Bien sûr. Dire.
Et ça, c'est un exemple très flagrant. Donc effectivement, il nous manque un peu d'informations qui... Peut-être aussi, alors pour notre curiosité personnelle, ce serait intéressant. Peut-être que pour la radio, ce serait peut-être...
C'est un peu trop technique.
Un peu trop technique. Mais effectivement, c'est une information... Je suis assez surpris, en fait. On n'a jamais abordé ce sujet-là à l'antenne. Moi, je reviens à la réalité parce que moi, je suis un homme...
Terre à terre.
Terre à terre. Et j'adore les casques de réalité virtuelle. Et on sait qu'on a de plus en plus de choses qui sont assez intéressantes. Alors là encore, moi, je parle d'un point de vue purement technologique. J'ai pas envie d'aborder l'aspect économique, j'ai pas envie d'aborder l'aspect éthique, c'est purement technologique parce que je trouve ça aussi fascinant. On va pouvoir utiliser un clavier virtuel en pointant les lettres du clavier avec ses contrôleurs dans le cadre du métaverse, par exemple, ou même avec ses mains. Pour un texte long, il sera possible de relier un clavier physique afin de saisir du texte comme son ordinateur. Mais l'idée développée par Meta, c'est Facebook, entre autres. Meta travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permet de se passer complètement du clavier physique et d'utiliser n'importe quelle surface en tant que clavier. Il y a une vidéo pardon, qui a été publiée, je vais y arriver, sur le compte Instagram personnel de Mark Zuckerberg. Il porte un casque de réalité virtuelle Meta. C'est le casque Meta Quest 2. Pour ceux qui sont des experts du domaine. Et il écrit directement sur un bureau sans clavier physique. Dans son casque, en fait, il voit une espèce de copie virtuelle de ses mains, ainsi qu'une copie du bureau sur lequel il voit un clavier entièrement virtuel.
Mais il n'existe pas. Mais
le clavier,
il le voit, donc il sait sur quelle touche taper en fait. Il
exactement.
Le voit dans son
casque. Et donc du coup, le mouvement des mains, grâce aux caméras de suivi des mains qui est donc intégrée au casque, eh bien le système peut suivre les mouvements des doigts et donc le système peut savoir sur quelle touche il appuie en fait. Et donc Mark Zuckerberg indique avoir réussi à atteindre 100 mots par minute. C'est quand même assez intéressant. Et la vitesse de moyenne de frappe se situe aux alentours de 40 mots par minute. Lui, il est tellement fort que c'est 100
sûr.
Mots par minute.
Bon, c'est il s'est entraîné aussi, bah oui.
Bon, là, on s'en fout, c'est le côté un petit peu... la mienne est plus grosse que la tienne, évidemment. On parlera tout à l'heure de ce qui nous attend avec Elon Musk, bien sûr.
Ah oui.
Mais là, d'un point de vue technologique, je trouve ça extraordinaire. Tu as un casque de réalité virtuelle, tu vois... un clavier, tu vois tes mains virtuelles sur ce clavier virtuel et tu tapes un texte. Bon, c'est ça qui est fascinant d'un point de vue technologique. Il faut savoir que Meta travaille sur ce genre de technologie depuis des années et des chercheurs avaient déjà présenté une fonctionnalité similaire en 2020, mais à l'époque, il fallait porter des gants avec des marqueurs. Et là, c'est plus le cas.
Là, on peut le faire vraiment les mains nues, c'est ça, oui.
Alors, impossible de savoir à l'heure actuelle quand cette fonctionnalité pourra être disponible. Le lancement est imminent pour le casque MetaQuest 3, donc 3. Il va disposer de casques de meilleure qualité et donc le suivi devrait être plus précis et plus adapté à cette fonctionnalité. Toutefois, le fait que Mark Zuckerberg le teste avec la version actuelle permet d'espérer qu'elle ne sera pas limitée uniquement au nouveau casque. Mais donc voilà, n'importe quelle surface devient un clavier avec le casque de réalité virtuelle de Meta. Alors ok, on fait de la pub pour Meta, mais je trouve que d'un point de vue technique, technologique, c'est assez fascinant. Après, Elon Musk également, on en parle très souvent dans cette émission, parce que quoi qu'il dise, quoi qu'on pense du personnage, il est indéniable qu'il a aussi apporté des avancées technologiques vraiment intéressantes. Alors, ça aborde plein de sujets également qu'on a très souvent survolé, malheureusement. Je trouve un petit peu dommage qu'on n'ait pas pu s'attarder sur la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, tous ces sujets-là. Mais il n'empêche que voilà, c'est des gens qui font avancer. Enfin, dire leur nom sera important. Quand on regardera le 21e siècle, ça c'est indéniable.
C'est sûr.
Et savoir que ces deux-là ont décidé de faire un match de je ne sais quoi, ils ont prévu de faire un match de pas de boxe, mais de combat de je ne sais quoi, je trouve que ça dénature la posture que ces deux ont en fait.
Oui, ça ramène quand même
à une certaine réalité un petit peu trop masculine et patriarcale qui est c'est moi, la mienne est plus grosse que la tienne, c'est tout. Enfin, c'est terre à terre ce que je dis, c'est malheureusement un petit peu ce qu'il prouve et c'est fort dommage parce que ces deux personnages ont apporté des choses extraordinaires d'un point de vue technologique. Et malheureusement, ce qu'on peut leur reprocher à ces deux personnages, c'est qu'ils n'ont pas été plus philanthrope, on va dire, comme a pu l'être à un moment Bill Gates sur le tard.
Mm-hmm.
Parce que Bill Gates aussi a été, son nom restera aussi dans l'histoire importante. Vers la fin, il est toujours vivant, c'est pas ce que je veux dire, mais quand il était plus scientifique, on va dire, il a vu un regard assez intéressant. Enfin bon, il posait des questions sur attention à toutes ces technologies. À mon avis, c'était trop tard, en fait. Il aurait dû réagir plus tôt, Bill Gates. Ces deux-là, Zuckerberg et Musk, à mon sens, n'ont pas du tout ce questionnement-là. Et je trouve ça très dommage de leur part, vu l'influence qu'ils ont. Musk, il a le fameux Twitter qu'on appelle X, dont il en fait quelque chose de totalement grotesque. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais d'un point de vue technologique, il y a encore énormément de choses à développer. Et on le voit très bien par ce casque de réalité virtuelle. Enfin, je trouve ça fascinant. Tu n'auras plus rien. C'est-à-dire que tu seras n'importe tout, tu as ton casque, tu pourras taper,
expérimenter en effet après des choses de la vie finalement de manière virtuelle, en allant peut-être beaucoup plus loin que taper juste sur un clavier.
Mais c'est ce clairement qui nous attend. Je pense que l'avenir, c'est que nous allons penser ce que l'on veut taper et ça va être inscrit à l'écran.
Ah oui.
Ah mais ça c'est une question d'années. Mais je suis persuadé. Mais il y a déjà, on a déjà présenté dans cette émission des infos très sérieuses dans des laboratoires de recherche avec des articles scientifiques validés par des grandes revues scientifiques, hein, c'est pas du bricolage, où il y a eu des choses très très troublante de la personne pense quelque chose et on reproduit ce quelque chose. Ben, il y a des choses où on est au début, c'est des prémices, mais on y arrivera. Mmh. Et ça, c'est fascinant. Et là encore, c'est quelque chose qui nous dépasse.
Ah ben ça, c'est
sûr. Donc j'ai toujours un regard émerveillé d'un point de vue technologique et scientifique parce que je trouve ça fascinant et un regard plutôt circonspect et modérateur dans cette position de médiation scientifique qui est de dire attention, où va-t-on ?
C'est une très bonne question et je pense qu'on en entendra parler. Moi, un peu plus tard, je vais mentionner Elon Musk parce qu'il est un peu partout quand même.
Question : quelle température fait-il au centre de la Terre ?
C'est une très bonne question.
Que nous sommes jamais allés. Donc, du
coup, oui, voilà, on n'a pas à partir pour mesurer. Non, j'imagine qu'il fait très chaud.
Bah écoute, je propose à nos auditeurs et à toi de réfléchir et de me donner votre réponse juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. I'm swayed by the demons telling fibs when the wolves cave in. No one's there. Keep nodding, yeah. My head's the rocking chair. We keep going round, we keep going round. I never made you proud, never made you proud. It's okay to cry, okay to cry.
See the sun.
H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y.
See the sun.
It's okay to cry, okay to cry.
See the sun.
H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y. Yeah,
I will give everything for a smile. I will give everything for a smile. I will give everything for a smile. I will give everything for a smile.
Love's a shield, my arm is hope. You made the good times feel like swinging from a rope. It's okay, okay. If you're okay. Okay, a bad day if you do not get your way. Did you see me in my lows? Did you keep me at my lowest? Hello, it's where you keep me, so I ain't that close to cuss.
Okay to cry, okay to cry.
See the sun.
H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y.
See the sun.
Yeah. Okay to cry, okay to cry.
See the sun.
H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y. Yeah.
I will be everything for a smile.
Storm in my chest, the honeymoon, it's your world, I'm just living in it. We stare through sunken eyes, you stare at the ground, I'm not surprised. Going back and forth, I deliver the sun to your feet, at your door, can't keep my hands in the ride. I buckle up when enough's enough, the sacrifice we make to see the sun. For vitamin D, you suck the soul out of me, on the tip of my tongue. How toxic can I be? I rub you up wrong, and still you want my company. Sometimes I wanna run away, sometimes I run away so I can feel free. How far can my feet take me before they bleed? How far can my feet take me so I can feel free? I wanna run away, how far can my feet take me before they bleed? How far is too far?
I will give everything for a smile. I will give everything for a smile.
Graphite 94.9 FM.
Et c'était Happy de Slow Tie sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. En général, vous êtes d'une passivité que je trouve un petit peu dommage parce qu'en fait, vous ne faites que d'écouter. Mais là, je vous ai posé une question juste avant Slow Tie. C'était quelle était la température au centre de la Terre ?
Et personne n'a répondu. C'était étonnant.
Et toi, qu'est-ce que tu répondrais, Carole ?
Franchement, je vais m'abstenir.
Ah non, je pense que c'est,
je pense que c'est des valeurs que je peux même pas imaginer.
Du style.
Bah, pour moi, il fait extrêmement chaud.
Oui.
Et j'ai pas triché, j'ai pas regardé sur internet.
Et donc, ça veut dire quoi extrêmement chaud?
Eh bah, ben des températures.
100, 200, 2000, 20 000, 200 000.
C'est une très bonne question. En degrés ou en Fahrenheit?
En degrés. Celsius.
En degrés Celsius. Ben, je sais pas, ouais. Après, j'ai du mal à me représenter. 20 000 degrés, qu'est-ce que c'est, tu vois,
c'est un peu chaud.
Un petit peu chaud. Mais j'aurais dit vraiment une valeur importante.
Eh bien, la réponse est oui. C'est une valeur importante, mais qu'est-ce que tu entends par valeur importante? Alors, plus on s'enfonce dans les profondeurs de la Terre, plus la température augmente. Cette observation, les hommes de l'Antiquité l'avaient déjà faite, hein, notamment lorsque les premières mines souterraines avaient été creusées. Cette idée est également appuyée par les épanchements de lave qui s'écoulent des volcans lors des éruptions volcaniques. Ce n'est donc pas pour rien que les diverses religions vont placer l'enfer et ses feux au centre de la Terre. Bien évidemment, parce que c'est bien là en effet que la Terre produit la majeure partie de la chaleur qu'elle va ensuite évacuer vers l'extérieur. Les roches ne sont en effet pas totalement isolantes et elles possèdent une certaine conductivité thermique, donc le côté de conducteur, donc elles vont pouvoir conduire la chaleur comme d'autres matériaux vont pouvoir conduire l'électricité, on est un petit peu dans ce même domaine. Donc on parle de conductivité thermique pour certaines roches, ce qui va permettre de transmettre la chaleur à travers l'ensemble des enveloppes, des couches du globe jusqu'à la surface. Et je vous épargne l'autre information.
Le suspense est quand même à son comble.
Donc l'augmentation de la température avec la profondeur, elle est décrite par ce qu'on appelle le gradient géothermique. Pour ce qu'on appelle la lithosphère c'est la croûte terrestre et le manteau supérieur. Donc on est vraiment à la surface, on va dire. Quand on coupe la Terre, c'est vraiment la toute pellicule autour.
Oui.
C'est vraiment cette lithosphère. Et bien ce gradient thermique, il est très fort. Parce que ça peut aller de 10 à 30 degrés Celsius par kilomètre. C'est-à-dire qu'on s'enfonce d'un kilomètre et on peut aller jusqu'à 30 degrés de plus et ainsi de suite. Mais dans les régions volcaniques, il peut cependant être encore bien plus élevé. Mais bon, on va prendre une moyenne de 30 degrés. On est entre 10 et 30 par kilomètre. Pour avoir une idée de la température qui règne au centre de la Terre, on pourrait se dire que ce gradient géothermique, donc le fait qu'on augmente, on va dire, en moyenne de 20 degrés par kilomètre, pour aller jusqu'au centre de la Terre, c'est 6300 km. Donc tu fais un calcul d'une règle de 3 que tu n'as pas envie de faire parce que tu es au bout de ta vie.
Clairement.
Parce qu'il y a trop de chiffres. Mais si on se dit que si on avance d'un kilomètre, on augmente de 20 degrés. Si on avance de 6300 km, c'est-à-dire si on va jusqu'au centre de la Terre, on aurait donc une température de 190 000 degrés.
Oui, non, c'est incroyable.
190 000 degrés, c'est énorme, mais c'est presque une aberration. Pourquoi ? Ça veut dire que si on a 190 000 degrés au centre de la Terre, ça implique que le centre de la Terre est à l'état de plasma. Or, il est avéré par de très nombreuses études sismiques que le noyau interne, donc le centre de la Terre, est solide.
Oui, c'est vrai. Oui.
On a toujours
cette image en
dans
plus,
la subconscient de se
fait,
dire
oui.
que le centre de la Terre est liquide. Non, il est solide. S'il est solide, sa vraie température est bien sûr très largement inférieure à cette valeur que je viens te donner de 190 000 degrés. En clair, en fait, la réponse, c'est qu'il y a eu des expériences en laboratoire qui ont permis d'estimer la température au centre de la Terre. On est aux environs de 5 000-5 500 degrés, ce qui est important.
Ouais, mais finalement...
Pas tant que ça, tout simplement parce que j'ai un peu menti, enfin c'est l'article qui a un peu menti, enfin qui vous a volontairement induit en erreur, parce qu'on a dit on avance d'un kilomètre et on augmente de 20 degrés en moyenne. Sauf que ça se passe uniquement au niveau de la croûte terrestre. Après, beaucoup plus en profondeur, ce gradient géothermique, donc cette élévation de la température, elle n'existe quasiment pas. C'est-à-dire qu'on augmente d'un chouïa, de pouillem de degrés quand on fait des kilomètres et des kilomètres. Si bien que on arrive à cette valeur de 5500 degrés à peu près pour le centre de la Terre. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce gradient géothermique, donc le fait d'avoir la conduction thermique, la conductivité thermique, je vais y arriver, excusez-moi, je bafouille. L'idée que cette chaleur s'échappe, elle va être intéressante aussi parce qu'on sait que, par exemple, on peut capter la chaleur dans la terre dans le cadre de la production d'électricité, dans le cadre de chauffage urbain également.
Oui,
donc
c'est
il y a
vrai.
Tout un intérêt. Mais parce que là, on est sur des températures qu'on maîtrise.
Mmh.
5500 degrés, on le maîtrisera pas. Mais en tout cas, on sait que pour l'instant, on est très loin d'arriver aux 5300 km. Pour l'instant, les forages restent à quelques dizaines de kilomètres, ce qui est déjà beaucoup. Mais là, on n'en est pas à 6300. Donc, si vous souhaitez briller en société, vous pouvez dire que la température au centre de la Terre est environ de 5000 degrés. Et là, les gens seront ébahis en disant mais comment tu sais ça ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai écouté Biotine tous les samedis. Et voilà, c'était une petite information. C'était pas du tout de l'actualité. Enfin, c'était dans l'actualité dans le sens où cette information a été révélée à la suite de ces études d'estimation. Mais voilà, on est aussi parfois sur des échelles de valeurs et de chiffres qui est intéressant d'avoir pour essayer de mieux comprendre parce que finalement, 5000 degrés, quelque part, on ne sait toujours pas ce que ça
signifie. Complètement, j'étais pas du tout dans la bonne échelle en fait. Mais parce que justement, très difficile de savoir ce que ça représente en fait.
Mais quelle est la différence entre 5000 et 20 000 degrés,
exactement.
Quelque part. Tu sais pas,
ouais,
en fait.
Tout à fait.
Donc, du coup, quelque part, je te donne un chiffre, tu peux pas l'estimer. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, un, à retenir, le centre de la Terre est solide, et deux, c'est pas si chaud qu'on pourrait le penser, même si c'est chaud, 5 000,
ouais,
mais c'est pas
fait.
Si chaud que ça.
C'est pas si chaud, et en effet, ça dépend des différentes couches, etc. Et comment est-ce qu'on pourrait potentiellement tirer un certain avantage, ouais, à voir.
Exactement, à suivre. À toi, Carole.
Mais je vais rester sur cette thématique, justement, de la chaleur, mais complètement sur un autre sujet, puisque c'est vrai que là, durant tout le mois de septembre, j'ai trouvé quand même pas mal d'actualités qui concernent l'espace. Donc, à nouveau, on revient dans l'espace. Et puis, bon, on sait que la vision, je pense, comme ça, qu'on a tous un peu de l'espace, c'est plutôt qu'il y fait très froid. Mais là, on parle pas des planètes, on parle de quand on se trouve vraiment dans l'espace intersidéral. Et donc là, il s'agit en fait d'un article relayé donc dans Science et Avenir qui parle d'un astre plus chaud que le Soleil, qui serait en orbite autour d'une naine blanche. Alors, on va voir qui est qui là-dedans. On va s'en démêler un petit peu les pinceaux. Alors déjà, il faut savoir que ces systèmes binaires, qui sont composés d'une naine blanche et d'une naine brune, ils sont rares. Seules une douzaine sont connues. Leur étude peut faciliter la compréhension de l'évolution des Jupiters chauds, ces géantes gazeuses qui sont toutes proches de leur étoile. Oui, parce que qu'est-ce que c'est qu'un Jupiter chaud ? Ben voilà, c'est... Donc, on a pris l'exemple de Jupiter, mais ça veut dire que ce sont des énormes planètes qui sont proches de leur étoile. Alors, à 1400 années-lumière du Soleil, donc relativement loin quand même, c'est un couple insolite qui a été observé grâce aux instruments du très grand télescope de l'Observatoire européen Austral, qui est installé au nord du Chili. Le premier membre du système WD-0032-317 est une naine blanche, le stade final d'évolution des étoiles similaire au Soleil. Tandis que l'autre est une naine brune, un astre dont la masse est de plusieurs fois celle de Jupiter, mais cependant pas assez lourd pour générer en son sein les conditions nécessaires pour déclencher la réaction de fusion nucléaire et donc s'allumer. Cette naine brune fait le tour de sa comparse, donc la naine blanche, en seulement 2,3 heures, une configuration rare dans la Voie lactée, puisque seule une douzaine de couples de la sorte sont connus. Et alors ces couples, ils offrent la possibilité aux astronomes de mener des études détaillées dans de très bonnes conditions. La faible luminosité de l'étoile permet d'étudier son compagnon avec précision grâce au spectromètre à disposition sur Terre. Ici, les calculs révèlent un partenaire particulièrement dense puisque la masse de la naine brune est évaluée à 75 et 88 fois celle de Jupiter. C'est un record. En raison de sa proximité avec la naine blanche, elle est verrouillée par les forces de marée et présente donc toujours le même côté face à l'étoile, tandis que l'autre côté reste plongé dans l'obscurité. Sa face éclairée subit donc une irradiation intense. En analysant la lumière émise par le système, Nahama Alakoun de l'Institut Weizmann pour les sciences en Israël a pu déterminer la température de surface de la naine brune pour les deux hémisphères, donc celui qui est irradié et celui qui reste dans l'obscurité. Du côté jour, la naine brune à une température comprise entre 7250 et 9800 Kelvin, ce qui correspond, alors pareil, on a parlé de différents différentes échelles de température. Là, donc, on est en Kelvin et ça correspond à une fourchette entre 7000 et 9500 degrés. Sa surface est donc environ 2000 degrés plus chaude que celle du Soleil. C'est l'objet non stellaire le plus chaud connu. Donc ça, c'était pour la partie de la naine brune, mais qui fait face à la naine blanche. Maintenant, si on regarde la partie qui se trouve du côté sombre, la température chute drastiquement de 6000 degrés.
Oui, quand même.
C'est ça. Donc là, et là, si je reprends les mêmes unités, donc ça nous fait une température comprise entre 1300 et 3000 Kelvin. Et donc, ça fait 1000 à 2700 degrés. Donc on a d'un côté, on va dire, une moyenne de 8000 degrés. Et de l'autre côté, une moyenne de 1500-2000 degrés. Donc c'est quand même assez hallucinant, je trouve, sur le même objet, en l'occurrence une étoile, mais c'est quand même assez incroyable. La description des investigations menées autour de ce système binaire fait l'objet d'une publication donc, dans la revue Nature Astronomy. Les auteurs y démontrent que ce couple constitue un parfait analogue pour étudier les Jupiters chauds, ces planètes proches de leurs étoiles et dont la taille et la masse sont comparables à celles de la géante du système solaire. Comme la naine brune, ces planètes subissent une forte irradiation et elles voient leurs atmosphères soufflées par le flux d'énergie. De plus, certaines trop proches peuvent être désagrégées par les forces de marée. L'étude de WD-0032-317 permettra de mieux comprendre les mécanismes en jeu dans ces cas.
C'est intéressant parce que du coup, le fait qu'on sache que le centre de la Terre, c'est 5000 degrés, nous donne une échelle, en fait.
Exactement.
Une échelle de comparaison, on va dire, par rapport à ces naines.
Et puis, les noms sont quand même assez bien choisis à chaque fois parce que du coup, en fait, c'est quand même des astres qui sont déjà assez incroyables et qui, en l'occurrence, dégagent une chaleur où, en effet, pareil, se représenter ce que ça fait, c'est quand même très, très compliqué. Mais surtout de se dire qu'en fait, aussi proche et puis avec ces conditions-là, c'est sûr que c'est assez incroyable. Et surtout, y en a une en fait qui du coup n'a pas une vraie fonction de soleil en fait, mais elle reste hyper proche de celle qu'il a au sein du système dans lequel elles évoluent.
Tu parles de chaleur, moi je reviens sur un côté plus terre à terre avec cette étude de l'Université d'État de Pennsylvanie qui a mené donc une étude sur le rôle que les textures des cheveux humains jouent dans la régulation de la température corporelle. Et cette étude révèle que les cheveux bouclés protègent mieux de la chaleur et de la déshydratation. Pour en avoir le cœur net, les scientifiques ont utilisé un mannequin thermique qui va simuler les variations de température corporelle et aussi des perruques en cheveux humains des différentes textures pour parvenir à ce résultat. Donc, les cheveux frisés protègent de la chaleur.
Bah alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que plein de gens seront ravis de l'apprendre.
Et d'autres non.
Et d'autres non, et devront peut-être investir dans des perruques.
Dans Science et Avenir, il y a plein de petites brèves vraiment intéressantes qui nous permettent de survoler assez rapidement l'actualité scientifique. Par exemple, l'université de Stanford aux États-Unis qui a travaillé sur une peau électronique conçue pour équiper des prothèses. Cette peau électronique ne mesure que quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur. C'est vraiment très très fin, beaucoup plus fin qu'une vraie peau. Et c'est assez pour intégrer des transistors souples capables de capter des sensations de température ou de pression. Ça a été testé chez le rat et cette espèce de peau électronique a converti en signaux électriques des sensations qu'ils avaient pu avoir, des sensations de toucher, des sensations de température, grâce à cette peau artificielle aussi sensible qu'une vraie. C'est totalement une performance vraiment intéressante. Alors le dispositif est assez contraignant parce que pour pouvoir ressentir ces sensations, il a fallu mettre des électrodes dans le cerveau des rats sur lesquels on a fait l'expérience. Donc effectivement, le dispositif n'est pas génial, mais le résultat est quand même totalement bluffant parce qu'on va pouvoir perfectionner, bien sûr, ce genre de dispositif. Attention, alors nous sommes samedi, mais faites gaffe, lundi, l'analyse de données de plus de 10 000 patients en Irlande pour le type le plus sévère de crise cardiaque montre que ces infarctus se produisent majoritairement le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le lundi.
Ah oui.
Selon les chercheurs, la cause serait à chercher du côté du déséquilibre du rythme circadien induit par le week-end. C'est-à-dire que tu fais trop la nouba le week-end, tu te couches un petit peu trop tard et du coup, ben, tu morfles un peu le lundi. Alors, c'est vrai qu'on est tous pas très...
Ça nous est tous un peu arrivé. Mais...
Et ben exactement, et ben là, c'est confirmé par cette étude de l'université de Belfast en Irlande, bien sûr. Ensuite, je voulais te parler de baiser, le plus vieux baiser du monde, la plus vieille trace de baiser romantique. Je te parle de romantisme. Cette plus vieille trace connue remonte à 4500 ans. Soit 1000 ans plus tôt que ce qui était jusqu'ici reconnu par la communauté scientifique, on a analysé des textes issus des premières sociétés mésopotamiennes qui montrent que ce baiser était déjà une pratique courante au Moyen-Orient à cette époque. Les scientifiques jugent toutefois que le baiser a probablement une histoire bien antérieure, puisqu'il existe chez certains de nos cousins primates. C'est une étude de l'université d'Oxford au Royaume-Uni qui parle de ça. 4500 ans, la trace du plus vieux baiser du monde, mais on pense que c'est un petit peu plus ancien. On a parlé très souvent de persévérance.
C'est vrai.
Ce rover qui est sur Mars, eh bien, il a un instrument qui s'appelle Moxie, qui équipe ce rover Perseverance, qui a réussi à produire 12 grammes d'oxygène en à peu près une heure. C'est vraiment performant, c'est deux fois plus que lors des précédents tests, de quoi permettre à un astronaute de respirer durant une vingtaine de minutes. Moxie, en fait, il va filtrer l'atmosphère de Mars avant de comprimer et de chauffer l'air pour décomposer le dioxyde de carbone et qu'on obtient, il va devoir le décomposer en oxygène et en monoxyde de carbone. La NASA réfléchit déjà à une version plus sophistiquée qui permettrait de produire 2 à 3 kilos d'oxygène à l'heure pour alimenter un équipage, pendant les 26 mois que durerait une mission habitée sur Mars. C'est assez intéressant de voir qu'on produit de l'oxygène sur Mars. Je trouve ça fascinant. Certes, c'est une petite quantité, c'est hyper prometteur.
Mais ce sont les prémices, oui.
Ce sont tout les prémices.
Qui est fait pour vraiment coloniser Mars.
Tu avais parlé, il y a peut-être 15 jours maintenant, de cette molécule d'oxygène qu'il fallait essayer de récupérer parce qu'elle avait une importance. Il y a aussi la découverte de la molécule la plus recherchée de l'univers et cela s'est fait par hasard. En fait, le télescope spatial James Webb, il regardait la nébuleuse Orion, c'est à 1350 années-lumière de la Terre, donc c'est quand même assez loin. Et il a identifié la molécule la plus recherchée dans l'univers. C'est le cation méthyl CH3+. Il nous a fallu quelques semaines pour comprendre qu'il s'agissait du fameux cation méthyl que tout le monde recherche depuis les années 1970. C'est le découvreur Olivier Bernet qui parle. Il est de l'université de Toulouse en France, hein, bien sûr, et de par sa faculté à pouvoir se lier avec un grand nombre de molécules organiques pour en former des molécules un peu plus complexes, eh bien le cation méthyl est considéré comme la pierre angulaire de la chimie interstellaire. Ne pas le trouver, c'était un peu comme posséder une collection d'objets réalisés en Lego sans jamais avoir vu une brique individuelle. En fait, c'est ça qui est, je trouve l'image vraiment intéressante parce qu'on comprend parfaitement ce dont il s'agit. Désormais, l'identification de cette molécule censée se trouver partout ne devra plus rien au hasard. C'est une formidable découverte qui a été faite par cette équipe de l'Université de Toulouse. On écoute un titre et puis on te retrouve, Carole, juste après. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. On a appris sa disparition, c'était au mois de mai, je crois, de Jean-Louis Murat, ce chanteur auvergnat, parce qu'il s'identifiait comme tel. Je vous propose d'écouter un titre de Jean-Louis Murat sur l'antenne de Graphite. J'ai fréquenté la beauté.
Chaque jour abreuvé à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoré, qui nous jette au panier, pleurniche en route de la tour. le mot qui sait nous tromper. Jamais sûr d'être aimé par des rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la beauté, je n'en ai rien gardé. Fréquenter la santé, chaque matin le lait, cœur humide, je nourris l'amour. J'ai fréquenté la santé, par les champs, les forêts, partout où me menait le jour. Derrière le bain aux forêts, nuit parmi les genêts, je suivais la cave à l'amour. J'ai fréquenté la santé, baiser, boire et manger pour les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la santé, je n'en ai rien gardé. Tout un mois de janvier, nuit et jour, il neigeait autour. J'ai fréquenté la beauté sur la baie, à l'enchaînement des toujours. Au luxe qui garde le corps, sans regret, sans remords, sous la cascade qu'elle adore. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'ai rien gardé de l'hirondelle du faubourg. J'ai fréquenté la gaieté, je n'en ai rien gardé.
Graphite, également à l'écoute sur graphite.net.
Voilà, c'était Jean-Louis Murat avec J'ai fréquenté la beauté. On aimait bien cet artiste,
oui,
qu'on écoutait très rarement sur les grandes radios. On l'écoutait aussi très rarement sur Graphite, très rarement passé du Jean-Louis Murat. Mais voilà, c'était pour lui rendre hommage à Jean-Louis Murat. J'ai fréquenté la beauté. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. On parle d'actualité scientifique, de plein de sujets, du plus complexe au plus futile, on va dire. Mais là, on va revenir quand même à une réalité assez importante, Carole.
Très, très importante, notamment pour des personnes qui auront connu des AVC ou dans le cas d'une maladie neurodégénérative, puisqu'il s'agit là d'un article donc, qui est paru dans Science et Avenir début septembre et qui consacre du coup une certaine analyse justement aux recherches qui ont été faites pour les personnes qui sont paralysées pour les aider justement à retrouver la parole, puisque c'est vrai qu'on connaît ces situations qui sont dramatiques. Donc là, j'ai des avancées scientifiques, des avancées dans la recherche, puisque deux nouvelles interfaces cerveau-machine ont permis de restaurer une forme d'expression verbale chez des personnes dont l'élocution était affectée par un AVC ou une maladie neurodégénérative. Avec une vitesse qui s'approche de celle de la parole, elles ont réussi à retranscrire leurs signaux cérébraux en phrases. Alors pour ceux qui ne peuvent plus parler, cette technologie, évidemment, elle représente un outil considérable pour rester connecté au monde dans son ensemble. Et peut-être pour continuer à travailler, entretenir des relations amicales et familiales. Donc, Pat Bennett, c'est là qu'on va un petit peu suivre tout au long de cet article, à 68 ans, elle est atteinte d'une paralysie et ne peut plus s'exprimer oralement. L'année dernière, un neurochirurgien a placé 4 petites électrodes dans son cortex cérébral. Aujourd'hui, les ondes de son cerveau sont retranscrites en mots sur un écran d'ordinateur. 2 équipes de chercheurs ont récemment révélé leur maîtrise de cette prouesse technologique, chacune en utilisant une méthode distincte. Les 2 études ont été publiées dans la prestigieuse revue Nature en août 2023, l'une provenant de l'université de Stanford et l'autre de l'université de Californie. Donc revenons au cas de Pat Bennett et ce qui lui est vraiment arrivé, son histoire. Elle est atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique, plus couramment appelée SLA, aussi appelée maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative qui peut conduire à la paralysie. Et ce qu'elle écrit, c'est « Quand vous pensez à la SLA, vous pensez à l'impact sur les bras et les jambes. Mais chez moi, cela a commencé par des difficultés d'élocution. Je suis incapable de parler. » Le plus souvent, en effet, c'est la périphérie du corps qui est touchée, car la SLA affecte la moelle épinière. Cependant, c'est le tronc cérébral qui a été atteint en premier chez Pat Bennett. Les muscles des lèvres, de la langue, du larynx et des mâchoires ne répondent plus. Pourtant, la commande cérébrale est intacte. L'information est donnée, mais ses muscles ne peuvent plus l'exécuter. En mars 2022, elle se porte volontaire pour un essai clinique visant à retranscrire les ondes cérébrales en phrases sur un écran d'ordinateur. Jamie Anderson, chercheur à l'université de Stanford, place alors 4 électrodes dans des régions cérébrales clés de l'élocution chez elle. En parallèle, l'équipe de chercheurs de l'Université de Californie a développé un modèle quelque peu différent, capable de traduire les ondes cérébrales en un discours lu par une voix artificielle. C'est Han, dont on ne connaît pas le nom, qui a testé la technologie élaborée par Edward Chang. Suite à un accident vasculaire cérébral, donc cette fois-ci, voilà, on est dans le cas de l'AVC, elle souffre d'une paralysie des muscles impliqués dans l'élocution. Cette fois-ci, les chercheurs ont installé des électrodes à la surface du cortex cérébral. Mais comment ces interfaces retranscrivent-elles les ondes en mots ? Prenons un exemple du modèle élaboré par l'équipe de scientifiques de l'université de Stanford. Les électrodes en silicium sont placées dans le cortex cérébral, couche la plus externe du cerveau. 2 dans chacun des hémisphères. Ils sont reliés à de fins fils d'or fixés à des implants crâniens apparents sur le dessus de la tête de Pat Bennett. Ces socles sont ensuite reliés à un ordinateur par l'intermédiaire de câbles. Un algorithme d'intelligence artificielle décode alors les signaux électriques émanant de son cerveau. Grâce à un entraînement intensif, l'IA associe ces signaux à l'un des 39 phonèmes qui composent la langue anglaise. Il teste les possibilités et corrige les phrases en fonction de leur sens et de l'enchaînement probable des mots. Ce système est formé pour savoir quels mots doivent précéder les autres et quels phénomènes composent quels mots. Ça, c'est ce que nous explique Francis R. Willett, l'auteur de l'étude. Si certains phonèmes ont été mal interprétés, il faudra quand même les deviner. Ce système résulte d'un long entraînement, 25 séances de 4 heures, durant lesquelles Pat Bennett devait se répéter des centaines de phrases du quotidien. C'est ainsi que l'intelligence artificielle s'est adaptée et a amélioré ses retranscriptions. De précédents tests cliniques des deux interfaces avaient abouti à une vitesse de transcription de 18 mots par minute en 2021. Aujourd'hui, grâce aux nombreux entraînements et aux rectifications des interfaces, elle a triplé, avoisinant les 70 mots par minute. À titre de comparaison, le rythme d'élocution classique est de 150 mots par minute. Donc, c'est moitié moins, mais quand même, je trouve que c'est impressionnant. Pat Bennett peut exprimer 62 mots par minute avec un taux d'erreur de 23,8% pour un vocabulaire de 125 000 mots. En limitant le lexique à 50 mots, les chercheurs de l'université de Stanford sont même parvenus à un taux d'erreur de 9%. De son côté, Han, donc l'autre patiente atteinte d'AVC, exprimait 78 mots par minute avec 1024 mots de vocabulaire avec une précision de 75%. Il s'agit d'une preuve de concept scientifique et non d'un véritable appareil que les gens peuvent utiliser dans la vie quotidienne, nous dit le chercheur de l'université de Stanford. Mais c'est un grand progrès vers le rétablissement d'une communication rapide pour les personnes paralysées qui ne peuvent pas parler. La commercialisation de tels systèmes n'est donc pas encore d'actualité. De nombreux essais cliniques supplémentaires seront nécessaires pour affiner les interfaces et aboutir à des discours naturels et adaptés aux émotions des personnes et peut-être même s'affranchir des fils électriques. C'est le défi que souhaite relever Elon Musk, et voici où est-ce qu'il intervient, avec le prototype d'un nouvel implant cérébral capable de communiquer directement avec des machines appelées Neuralink. En mai 2023, il a obtenu l'accord des autorités sanitaires américaines pour effectuer des tests cliniques sur des humains. De nouvelles perspectives donc pour l'intelligence artificielle qui semble avancer à pas de géant.
Neuralink, oui, on en avait parlé dans cette émission, effectivement, c'est assez prometteur. C'est fascinant en fait.
Tout à fait. Et là, évidemment, j'allais dire, c'est pour la bonne cause. C'est des cas qui sont extrêmement difficiles. Donc, on voit quand même que ça ne se fait pas comme ça, qu'il faut un entraînement énorme. C'est aussi des implants dans le cerveau. C'est des choses, il faut des opérations. Ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est vrai que de pouvoir retrouver ces modes de communication, j'imagine que pour ces personnes, ça doit être assez incroyable. Parce qu'on sait que sinon, il existe des modes, mais très, très, très lents. Et qu'est-ce que ça doit être douloureux de ne pas pouvoir s'exprimer comme on veut.
Il y a un article dans Science et Avenir qui est quasiment similaire, mais qui parle cette fois, d'un patient hollandais paralysé après une chute à vélo, et il peut désormais contrôler à nouveau le mouvement de ses jambes, tout cela par la pensée, oui. grâce à un implant cérébral couplé à des électrodes stimulant sa moelle épinière qui a été coupée, lésée, qui fonctionne mal. On est un peu dans le même style en fait.
Oui, tout à fait.
Ce n'est pas une amélioration, c'est un changement radical de concept. C'est ce qu'explique Grégoire Courtine. C'est l'équipe de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse qui a testé depuis plusieurs années avec succès sur plusieurs patients son dispositif de stimulation électrique de la moelle. Mais cette fois, ce dispositif a été associé à une autre technologie développée en 2018 au centre Clinatech de Grenoble, un implant captant l'activité cérébrale au niveau du cerveau de façon à permettre aux patients de contrôler un exosquelette par la pensée. C'est ça qui est fascinant.
Oui, oui, j'avais lu des choses là-dessus, en effet, pour des sportifs. Ou pour des...
Exactement. Ouais, et là, les deux équipes suisses et françaises ont ainsi collaboré pour concevoir le premier système de stimulation électrique de la moelle épinière contrôlé par la pensée. Toute la différence est dans le contrôle de la stimulation. C'est ce qui explique le patient à utiliser ce système et qui était auparavant testé. Il met en place, il est le patient témoin, on va dire, qui va... Le patient cobaye, je vais y arriver. Il s'appelle Gert Young. Concrètement, l'implant cérébral envoie les signaux captés à un processeur qui les analyse pour prédire les intentions de l'utilisateur grâce à des algorithmes. Ces prédictions sont ensuite transmises sans fil à un dispositif implanté dans l'abdomen du patient qui va activer les électrodes disposées sur la moelle épinière pour la stimuler. Tout ce cheminement depuis le cortex moteur, donc au niveau du cerveau jusqu'à la colonne vertébrale, se fait en moins de 500 millisecondes.
C'est incroyable.
Claquement de doigts. Ouais, ouais. Et ça permet donc à ce patient un contrôle naturel des mouvements de ses jambes, un système en partie intégré au déambulateur du patient pour être utilisé en autonomie à domicile. J'ai pu, dit-il, par exemple, repeindre les murs chez moi en étant debout.
Génial, ouais.
Voilà, c'est ce qu'il témoigne, enthousiaste, et il a bénéficié du système durant 7 mois. Voilà, cet article de Science et Avenir reprend un peu ce que tu viens d'évoquer. Bien
les avancées dans ce domaine-là, tout à fait.
C'est aussi la science, optimiste, prometteur et...
qui bénéficie aux gens dans le bon sens du terme, ouais,
aussi
tout à fait.
Des perspectives assez intéressantes qui nous permettent aussi d'aborder dans cette émission. Parfois, il y a des émissions hyper plombantes, parfois, il y a des émissions hyper réjouissantes. Et c'est le cas aujourd'hui avec ces deux infos qui franchement, on se dit, ok, la science apporte aussi des choses intéressantes, bien évidemment. La science telle que vous la connaissez, vous allez pouvoir la rencontrer, c'est lors de la fête de la science, c'est donc le 14 octobre, donc c'est dans 2 semaines, une émission en direct de la fête de la science de l'Université Technologique de Compiègne. Oh, c'est un dispositif que vous commencez à connaître maintenant tous les ans. Nous sommes en direct au cœur du village de la technologie pendant 2 heures et on va ainsi, pendant ces 2 heures, inviter les chercheurs, les enseignants-chercheurs, professeurs, ingénieurs, étudiants également, industriels bien sûr, au micro, et puis on va leur demander qu'est-ce que vous nous présentez à la fête de la science. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quelque part sur quoi vous travaillez. Et du coup, on a une vision de l'actualité de la recherche scientifique, technologique au sein de la Picardie notamment, et c'est ça qui est intéressant, de voir ce qui se passe dans les laboratoires, notamment de l'UTC. Je parle de l'Université Technologique de Compiègne parce que cette émission se fera en direct de cet établissement, mais la fête de la science est une manifestation nationale, francophone d'ailleurs, et donc vous avez pendant tout le mois d'octobre et jusqu'en novembre également, dans certains cas, la possibilité de vous rendre dans une université, dans un centre de recherche, dans un musée scientifique pour participer à la fête de la science, rencontrer les chercheurs, discuter avec eux et comprendre ce qui se passe, parce que le principe de la fête de la science, c'est de la vulgarisation scientifique. Donc les messages qui sont proposés sont des messages à votre portée, donc n'ayez aucune crainte de venir. Ne vous dites pas, oh là là, je vais encore rien comprendre. Au contraire, c'est fait pour. Il y a une interactivité qui est proposée avec des ateliers qui sont très bien faits, pédagogiques, intéressants. Et puis, on est aussi dans un esprit convivial et festif parce que c'est la fête de la science. Donc, on est aussi dans une ambiance qui permet justement cette rencontre sous des auspices vraiment bienveillantes. Et justement, il faut vraiment profiter de cet événement. Ça a lieu tous les ans. Et donc là, c'est le 14 octobre pour notre émission spéciale de Biotine pour la fête de la science. Et c'est le seul moment. Alors là, j'ai eu le bonheur d'avoir Carole pendant tout ce mois de septembre. Mais la fête de la science, c'est le seul moment où il y a Peggy qui daigne revenir au micro, parce que sinon elle ne revient pas, mais elle ne revient que pour la fête de la science. Donc on retrouvera Peggy le 14 octobre entre 14h et 16h en direct de la fête de la science pour Graphite. C'est la fin de cette émission. Merci Carole, tu nous as accompagné pendant tout le mois de septembre.
C'est passé tellement vite.
Surprise peut-être la semaine prochaine. Écoute, on verra. De toute façon, on sait très bien que tu reviendras prochainement, parce qu'on a tellement de sujets passionnants à évoquer avec toi que tu ne peux pas nous laisser comme ça. Tu n'as pas le droit.
Mais non, bien sûr, je reviendrai, évidemment. C'était un plaisir en tout cas.
La suite de vos émissions, bien sûr, sur l'antenne de Graphite. Et si vous souhaitez réécouter cette émission passionnante, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts sur graphite.net, le site internet qui vous permet de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Bonne journée Carole.
Bonne journée, bientôt.
Quant à vous, amis auditeurs, on se retrouve samedi prochain pour une émission plus classique. Quoique, on parlera bien sûr de l'attribution des prix Nobel qui seront déclarés dans le courant de la semaine. Donc en général, le premier samedi du mois d'octobre, c'est une émission spéciale prix Nobel. C'est intéressant de savoir qui a été récompensé, notamment sur quel sujet. Ça nous donne aussi une autre vision de l'actualité de la recherche internationale. Et là, je pense qu'il y aura un aspect géopolitique qui peut être aussi intéressant. On suivra ça samedi prochain sur l'antenne de Graphite. Bonne journée, à bientôt, au revoir.